Bonjour et bienvenue à l'Institut des Libertés pour notre émission, seconde émission de rentrée, où aujourd'hui, dans une actualité riche en rebondissements, entre l'affaire Cohen, Legrand et nos premiers ministres qui sautent tout autant que sous la 4ème République avec des noms plus sots les uns que les autres. Enfin, à l'heure où vous verrez cette émission la semaine prochaine, on en aura sûrement un nouveau. On verra bien, soit c'est Monsieur Lombard, l'homme au physique de Cerfa, soit c'est Madame Yael Braun-Pivet et ses poules. Oui. On verra.
Oui, mais tout ça n'est pas très excitant parce que je me souviens quand j'étais jeune, même sous la 4ème République, je ne m'intéressais pas beaucoup à la politique. C'était en 58 ou avant. Mais il y avait quand même des gens dans l'Assemblée qui avaient une espèce de tenue, qui avaient une espèce d'aura. On pouvait penser, je sais pas, à Modeste France, mais on avait plein d'autres. Donc, le personnel politique n'était pas ridicule. Ce qui me surprend le plus en ce moment, c'est de voir à quel point, entre l'obèse du Sénat, Bayrou qui a un ventre qui allait jusque sur ses genoux, enfin, ils n'ont pas de tenue physique, on ne peut pas les respecter, ces gars-là. On ne peut pas les admirer.
Non.
Donc, il me semble que j'avais écrit un papier il y a quelques années là-dessus, qui était sur le déficit d'admiration. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, il n'y a plus personne qu'un homme de 20 ans, allez, 18-20 ans, dans la politique actuelle, puisse admirer. Je ne vois pas.
On va en parler, mais Olivier Marleix, qu'on avait rencontré,
il était très bien, lui.
Il était très bien. Et ça prouve aussi, quand même, quelque part, que le système de nos jours est ainsi fait que des hommes de bien, des hommes de devoir, qui étaient l'impression que m'avait fait cet homme, bien que je ne l'ai rencontré qu'une seule fois, mais on avait longuement échangé tous les trois. Et je déplore son acte. Et je déplore que cet homme n'ait pas été utilisé quelque part à sa juste valeur, parce qu'à mon avis, c'eût été un extraordinaire serviteur de l'État.
Voilà.
Et j'en suis.
Il a fait une grosse enquête sur l'affaire Alstom, etc., qu'il a remis au juge d'instruction, et qui n'a jamais fait monter le dossier. Donc, le rôle de l'Assemblée nationale dans une commission d'enquête, c'est de trouver le cas échéant des faits criminels, mais ils n'ont pas le droit de poursuivre. Donc, il faut qu'ils donnent ça à un juge. Mais si le juge le traite comme le juge de l'époque avait traité Mitterrand au moment de l'attentat de l'Observatoire, c'est-à-dire qu'on n'a jamais instruit, ben, à ce moment-là, ça finit par tomber, quoi. Donc, on obtient des non-lieux par corruption d'une partie du système judiciaire, quoi.
Bien sûr. Des affaires qui durent des temps tellement longs qu'en fait, on arrive à avoir des jugements après les décès des intéressés. Alors aujourd'hui, parlons peu mais parlons bien.
Oui.
On va vous présenter le nouvel opus que Charles a commis cet été
sous les platanes. Voilà.
Sans Châteauneuf-du-Pape, parce qu'il vous a déjà expliqué, il était malade. Et ça va rassembler à un truc comme ça. Alors, vous voyez, c'est l'envers du livre. Je pense que Guillaume l'aura incrusté. Voilà, ça va s'appeler « Les mondes de demain ». Et on va vous expliquer pourquoi « Les mondes de demain ». Donc, cette émission est dédiée à la présentation du livre de Charles. Yeah !
Qui n'est pas encore disponible en librairie. Il vient d'être envoyé chez l'éditeur.
Il vient d'être envoyé, pour tout vous dire, il a écrit la conclusion vendredi. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez la possibilité de le commander en précommande sur le site de l'éditeur www.édition Pierre de Taillac. Vous retrouverez la page des ouvrages de Charles et en précommande, il est alors à 15,90 au lieu de 19,90. Voilà. Et vous le recevrez quand il sortira en novembre. C'est-à-dire que là, oui, on est en septembre, donc le fait que vous le commandiez en avance, que ça fasse une avance de trésorerie, fait que vous payez un petit peu moins. Pour ceux qui sont dans des destinations éloignées, malheureusement, ils ne peuvent les envoyer que par la poste. Donc ce sont après, ne me râlez pas dessus parce que vous me dites c'est très cher à La Réunion. Bah oui, bah c'est les frais que demande la poste pour La Réunion, parce que si vous n'êtes pas Amazon, vous n'avez pas un système intégré. Enfin, comme ce n'est pas un petit éditeur, il n'a pas un système intégré d'envoi. Voilà, vous n'avez pas vos avions. Donc voilà, malheureusement, ça se passe ni vos stocks.
Par contre, il y aura sûrement une édition numérique.
C'est-à-dire... Alors, bien sûr, il y aura dans un second temps...
Donc vous pourrez toujours l'apprendre.
Un e-book. Et dans un second temps aussi, en édition de poche chez Perrin.
Oui, peut-être qu'ils le prennent.
Bah, ils le prendront puisqu'ils ont pris La vérité vous rendra libre.
Normalement, c'est un peu la suite.
Voilà, et c'est un peu la suite. Et c'est pas très politique, donc...
Non, c'est assez, donc ça, c'est voilà. Assez général.
Autant cesser de vous faire avoir est un manuel, donc là, on ne sait pas...
Il n'y a rien à dire. Cesser de vous faire avoir, c'était comment ça marche. D'ailleurs, ça marche assez bien.
Voilà, c'est un manuel.
C'est le manuel que tu m'avais demandé faire pour les étudiants de l'université de l'épargne.
Voilà. Alors, venons sur le propos même du livre. Alors, dans La vérité vous rendra libre, justement, Charles essaie d'expliquer comment nous sommes passés d'un monde raisonnable au désastre actuel. Et là, ce que tu vas essayer de faire, et c'est assez rare, c'est d'essayer de voir à partir de la situation actuelle comment nous allons nous projeter dans le futur.
Je commence mon bouquin par une vieille astuce. Vous savez, c'est le gars qui est perdu en Irlande. Et il demande à un paysan irlandais qui était là comment retourner à Dublin. Et le paysan irlandais lui dit « Moi, si j'étais vous, je ne partirais pas d'ici. » Donc, essayer de rentrer dans l'avenir, c'est être à peu près certain de se casser la gueule. Donc, j'utilise une façon de penser, aussi curieux que ça paraisse, que j'avais apprise dans un livre quand je devais avoir 25 ans, un livre de Pierre Massé qui s'appelait « Les tendances lourdes ». Alors Pierre Massé, c'était un de ces grands hauts fonctionnaires comme il y en avait dans les années 60, 70, qui était... et donc, quand vous analysez les économies, c'est un peu ce que faisait aussi Tocqueville ou Bastiat, si vous regardez les choses qui sont là, vous savez, comme le Gulf Stream, si j'ose dire, des espèces de normes courants qui sont là, et vous savez que ça va durer, etc. Donc, dans ce livre, j'essaie de traiter deux ou trois courants importants. Le premier, c'est bien sûr ce qu'on pourrait appeler rapidement l'écroulement de la société de la dette, c'est-à-dire fondé sur cette espèce d'endettement permanent, etc. qui devient...
En fait, le keynésianisme.
Le keynésianisme, voilà. La dette comme solution à tous les problèmes. Mm-hmm. Ça, on arrive à la fin de ça. Et ça touche donc les États-Unis, l'Allemagne, la France, l'Angleterre, bref, ça touche pas mal de monde. Et donc, ça, c'est la première tendance lourde, vous voyez, ça me paraît. Donc, c'est celle que j'avais essayé de décrire dans mon livre précédent, mais voilà, c'est... je fais un rappel, en quelque sorte, dans une première partie. Dans une deuxième partie, je dis, il y a quelque chose qui est en train d'émerger, c'est, dans le fond, la triple alliance, pour utiliser un terme de l'ancienne diplomatie. Vous avez l'alliance qui est en train de se faire entre Delhi, Moscou et Pékin. Si vous voulez, Moscou, c'est les matières premières, bien sûr, beaucoup. Pékin, c'est grosso modo une industrie qui ne connaît pas d'équivalent dans le monde aujourd'hui, donc un pouvoir industriel immense et facile à exporter. Et la troisième, c'est l'Inde qui a la bonne démographie, parce que les deux autres ont des très mauvaises démographies. Donc, on voit bien que ces trois-là ont intérêt à travailler ensemble. Donc, c'est l'unification de l'Asie. Et là, pour quelqu'un qui s'intéresse un peu à la géopolitique, il y a toujours la lutte en géopolitique entre ceux qui contrôlent la terre et ceux qui contrôlent la mer. Et depuis l'Empire britannique, auquel l'Empire américain a succédé, la puissance dominante, c'était celui qui dominait la mer. C'est-à-dire, la marine américaine avait remplacé la marine anglaise. Okay. Rule the wave. Britannia rule the wave. C'était... Donc, cette fois-ci, tout le développement va se produire sur la Terre. C'est-à-dire que tu vas avoir des liaisons qui vont se créer entre Moscou et l'Inde, à travers... Donc, j'ai souvent décrit cet immense corridor que les Russes ont fait en quelques années pour amener leurs matières premières vers l'Inde. J'ai vu que l'Inde avait signé... la Chine avait signé avec la Russie un immense contrat pour que le gaz naturel russe aille au travers de la Mongolie, etc. Donc, on voit très bien que ce système est en train de s'organiser. Ça va amener déjà un développement des infrastructures très fortes.
Mmh. Alors, je te coupe un peu parce que là, tu es en train de rentrer dans le corps du livre. Or, j'aurais aimé le présenter un petit peu chapitre par chapitre.
D'accord, donc, alors vas-y.
Alors, donc, tu as bien rappelé que tu rappelais deux choses en préambule qui étaient la fin du keynésianisme et l'émergence de ce qu'il est convenu d'appeler désormais la zone de Valéry Pierris.
Voilà.
Alors, ceux qui nous suivent, on vous en a souvent parlé, la zone de Valéry Pierris, du nom du géographe américain qui avait ça comme pseudo sur Reddit, je crois, et cette zone où la moitié de la population réside et que autour...
De 4000 km, un rayon de 4000 km autour de Hong Kong.
Voilà.
Un vrai cercle comme ça.
Et qui va connaître une croissance absolument fulgurante et où tout va se passer désormais autour de l'océan Indien. Alors, donc, vous avez ensuite un premier chapitre qui est l'Empire américain, sa fin et la fin des dictatures molles
européennes
qui gravitent autour. Et en deux dans le livre, donc dans ces deux grandes parties, l'émergence de la zone de Valéry Pierris. Alors, revenons sur le chapitre 1, qui est la fin de l'Empire américain et des social-démocraties européennes.
Voilà, alors, c'est assez simple. C'est que l'Empire américain avait un point d'ancrage, qui était que vous aviez besoin de dollars pour acheter votre énergie.
Et ça, c'était arrivé suite à 1945, où ils s'étaient tous retrouvés sur un bateau.
Ibn Saud. Et Franklin Roosevelt, le deal avait été, les États-Unis protègent militairement l'Arabie Saoudite, mais tout le monde, l'Arabie Saoudite vend son pétrole aux étrangers en dollars.
Et de là, de tout ces accords-là, sont nés les principes du pétrodollar.
Du pétrodollar.
Et de ce jour, le monde entier a dû, il faut bien voir qu'à cause de ça, de ce jour-là, le monde entier, tout à coup, a dû avoir du dollar
pour
acheter de l'énergie.
Si vous étiez un pays importateur d'énergie, c'était pas de la tarte, hein, parce qu'il fallait les gagner, les dollars. Donc, ce que vous avez fait au début, par exemple, dans les années 45-50, c'est le grand développement des multinationales américaines, mais vous étiez obligé de vendre vos joyaux de famille pour avoir des dollars, et à ce moment-là, vous pouviez réenclencher l'économie, quoi. C'était.
Et alors, inversement, voulu dire pour les États-Unis que, comme le monde a eu besoin de plus en plus d'énergie parce que l'économie, c'est de l'énergie transformée, les USA sont passés d'un excédent de compte courant jusqu'en 85 à des déficits extérieurs de plus en plus importants.
Ces déficits extérieurs étaient achetés par les pays exportateurs aux États-Unis et ils réinvestissaient ça dans le marché obligataire américain, c'est-à-dire le déficit budgétaire. Donc ce que disait REF, c'est que le déficit extérieur finançait le déficit intérieur. Il appelait ça le privilège impérial. Mais en même temps, ça voulait dire aussi que leur industrie était détruite.
Oui.
Et donc, ils exportaient de moins en moins de trucs. Donc, c'était une bonne chose pour l'Empire américain, mais c'était une très mauvaise chose pour la nation américaine. On a souvent parlé ici de le travail des États-Unis aujourd'hui, c'est d'extraire une nation de l'Empire. Comment ils vont se débrouiller pour y arriver? Ça va pas être facile. C'est ce qu'avait essayé de faire Atatürk ou même De Gaulle. C'était un peu la même idée. Donc, et alors on se rend compte donc que ça s'arrête puisque maintenant tout le monde peut acheter son pétrole dans la monnaie qu'il veut, dans la monnaie de lui. Et ça, donc, ça va entraîner une rupture complète des relations d'autrefois.
Alors,
on n'a pas besoin des réserves de change.
Voilà, mais alors par le passé, tu en parles dans le chapitre 2, ce qui s'est passé, c'est que avant 2022, il y a eu deux pays qui ont essayé sortir, de se dédollariser. Ça a été l'Irak et la Libye. Et
l'espérance de vie des deux a beaucoup baissé.
Beaucoup baissé, très rapidement.
Très rapidement. Parce que les États-Unis ne rigolaient pas. Comme ils savaient que c'était l'encre de leur empire, quiconque essayait de... Et alors, quelqu'un essayait de sortir de ça, il avait des problèmes. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que la Russie, qui est quand même un des plus gros, si ce n'est le plus gros producteur de pétrole du monde, était tombée, donc après le communisme, sous un brave alcoolique qui s'appelait Yeltsin, qui n'était pas très efficace, mais qui a choisi ensuite le Poutine comme successeur. Et Poutine a réussi à redresser petit à petit la Russie, et elle s'est mise à exporter des matières premières. Et elle a exporté son pétrole, son gaz, etc. en Chine contre des yuans et en Europe contre des euros, à l'Allemagne, etc. Et ça, les Américains n'ont pas du tout aimé. Coup d'État en 2014 à Maïdan pour essayer de...
Oui, bah de nettoyer, de tenir.
Bien sûr, de faire sauter la Russie pour qu'on reprenne ce...
Sachant qu'il y avait toute cette idée autour de la Crimée aussi.
Oui, mais il y avait aussi la Crimée qu'il fallait garder parce qu'il y avait Sébastopol qui permettait l'accès.
Voilà, l'ouverture.
L'ouverture. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que la guerre qui se passe en ce moment, c'est une guerre pour empêcher que les économies européennes aient accès à une énergie bon marché. Et ils ont très bien réussi puisqu'ils ont fait sauter le pipeline, etc.
Ah oui, oui.
Donc, ça laisse les social-démocraties européennes dans une situation impossible parce que, ben, comme Emmanuel l'a dit, comme on répète souvent, l'économie, c'est de l'énergie transformée. Ben, si votre, par exemple, je crois qu'en Allemagne, je ne sais pas si mes chiffres sont exacts, mais c'est ceux que j'ai lus, le prix de l'énergie est à 6, aux États-Unis, il est à 3, et en Chine, il est à 1. Donc, tu imagines, TBASF, tu veux faire de la chimie, où est-ce que tu vas foutre ton usine?
Mais alors, surtout, là où les Américains n'ont pas réussi, c'est qu'entre-temps, les Russes, ils ont quand même réussi à établir des sorties pérennes vers l'océan Indien, l'Asie du Nord, l'Asie du Sud, le Pacifique, l'océan Indien. Voilà. Et l'Inde, de son côté, n'a plus de contraintes énergétiques et donc plus de contraintes de balance commerciale.
C'est-à-dire, oui, ce qui se passe, c'est que l'Inde, qui est un pays qui n'a pas énormément... S'ils ont du charbon, mais enfin, ils n'ont pas énormément d'énergie... Chaque fois qu'il commençait à croître un peu vite, plus un peu comme il devrait, selon la population et la productivité, il commençait à avoir des déficits extérieurs. Logique. Donc la roupie était attaquée, et la Banque centrale était obligée de monter les taux pour arrêter le truc. Donc c'était ce qu'on appelle en économie stop and go. Tu sais, c'est-à-dire qu'ils partaient, puis dès qu'ils marchaient, pouf, il fallait arrêter parce qu'il n'y avait plus d'argent dans les caisses. Enfin, il fallait payer l'énergie. Mais si aujourd'hui ils achètent leur importation de pétrole en Russie et qu'ils le payent en roupie, ils n'en ont rien à cirer. Donc, ce que je veux dire, c'est que la balance commerciale qui compte aujourd'hui en Inde, c'est la balance commerciale ex-pétrole. Et celle-là, elle est en excédent. Donc, ils vont pouvoir croître très gentiment. Donc, on voit bien, mais à partir du moment où ce privilège américain sur le dollar pour acheter l'énergie disparaît, il y a quelque chose qui se passe, qui est très important. C'est tout simplement que les banques centrales ont fait à peu près 5000 milliards de dollars de réserves, c'est-à-dire les déficits des comptes courants américains accumulés, etc., qui apparaissent dans les banques centrales. Donc, en quelque sorte, ils ont fait quand même des petits écureuils, ils ont mis des noix de côté, en dollars, pour s'acheter l'énergie. Mais si tu peux acheter l'énergie dans ta monnaie, à quoi ils te servent ces petites noix que t'as mis de côté, ça ne sert plus à rien.
Qu'est-ce qu'ils vont donc, faire ça de tous ces dollars?
C'est-à-dire qu'il y a 5000 milliards de dollars là, qui sont dans les banques centrales. Et je me dis, mais... qu'est-ce qu'ils vont en foutre?
Mais ce qui, en amont aussi, pose aussi la question...
J'ai pas de réponse. Hein.
Non, bien sûr. Mais c'est, bon, on peut poser des questions dont on n'a pas les réponses.
Absolument,
encore.
Voilà. Absolument, bon.
La vraie question, c'est que les États-Unis donc, ont plus ou moins déclenché cette guerre avec l'Ukraine. Et en réalité, ça a accéléré la dédollarisation
voilà,
du monde.
Voilà. C'est exactement ce qui s'est passé. Parce que les Russes ont répondu de façon astucieuse en disant... Le vrai problème des Russes, c'était... Les Américains disaient, à partir du moment où ils ne peuvent plus exporter vers l'Allemagne, ils vont se retrouver exportant tout vers la Chine. Donc ils vont devenir un État vassal de la Chine. Et ça, ils ne peuvent pas l'accepter. Donc ils ne le feront pas. Et ce qu'ont fait les Russes, qui sont tout sauf bêtes, c'est qu'ils ont fait des grandes lignes de commerce qui parlent de Mourmansk au nord de la Russie, là, et qui descendent jusque littéralement la ligne... Donc ils ont créé une ligne verticale de transport qui barre toute la Russie du nord au sud, et qui arrive pas très loin de Bombay, Mumbai. Donc, à la place de coincer la Russie, ça l'a décoincée. C'est-à-dire qu'elle n'avait que deux clients, et maintenant elle en a plein. Donc, c'est difficile de se gourer plus que les Américains s'ils pensaient. Le but des Américains, c'était un géopolitologue américain qui s'appelait Brzezinski, qui était d'origine polonaise, qui disait le but de la politique extérieure des États-Unis, c'est de continuer à servir l'Allemagne. Premier but. Le deuxième but, c'est d'empêcher la Russie de se développer. Et le troisième but, c'est d'empêcher la Chine de devenir un concurrent. Ben, on peut dire ce qu'on veut, mais ça fait les trois buts. C'est toute la politique américaine a été faite pour ça. Depuis Brzezinski, c'est depuis Carter, c'est le spécialiste de Carter. Mais Ben, ces trois buts se sont viandés de façon épouvantable. Donc, on ne peut pas imaginer un désastre diplomatique que, plus important que celui que, dont souffrent les États-Unis aujourd'hui, quoi. Ils se sont trompés sur tout.
Et ça veut dire qu'aujourd'hui, on a trois géants qui, là, vont dominer
tout le continent asiatique.
Voilà, la Russie, la Chine et le sous-continent indien.
Tout le sous-continent indien. Et alors, ce que je sais, c'est que ce développement extraordinaire qui va se passer dans le Valérie-Piri Circle et dans tout le reste de l'Asie, peut-être même dans une partie du Moyen-Orient, là, ça ne se fera pas en dollar US. C'est un truc aussi très important, c'est que vous ne pouvez pas vous développer avec la monnaie de votre ennemi, quoi. Donc, l'une des thèses que je défends dans ce livre, c'est que ça va être le dollar de Hong Kong, qui est convertible en dollar US, mais qui est contrôlé par la HKMA, qui est la Banque centrale de Hong Kong. Et donc, ce qu'on va avoir émergé, c'est qu'on va avoir emmené une espèce de clone du dollar US, mais qui sera contrôlé par la Banque centrale chinoise. Et là, les autorités fédérales américaines n'y peuvent rien parce que c'est pas leur monnaie, ça sera pas leur tribunaux.
Surtout, ce qui est très important pour nous, c'est que tu en parles dans le livre, c'est que de tout temps, quand on faisait des opérations de change, par exemple, on passait par SWIFT. Ce qui voulait dire qu'à n'importe quel moment, la CIA était au courant.
Absolument.
De ce que vous...
mouvement, tout le monde le savait.
Tout le monde le savait, je veux dire. Vous achetiez un chalet à la montagne, vous faisiez un rapatriement de pognon de A à B, et bien vous pouvez être sûr que le fisc américain savait que Charles Gave achetait un chalet à la montagne. Est-ce que c'est normal? Peut-être pas. Bon. Aujourd'hui, on va sortir de cet axe d'information, ce qui veut dire que quelque part, les États-Unis vont aussi perdre une mainmise qui ne va pas forcément les amuser, mais ça va énormément fluidifier.
Ce que j'ai de montrer dans ce livre, c'est que à la place d'avoir un système de paiement complètement centralisé comme un énorme ordinateur là, un mainframe d'il y a 30 ans, tout le monde a des écrans, mais l'information est au centre, ça va être remplacé par des relations de banque centrale en centrale bilatérales entre chaque pays. Et j'explique comment ça se passe. C'est pas très difficile, mais ce qui se passe, c'est que simplement la Chine fait un prêt à l'Indonésie, l'Indonésie fait un prêt concurrent exactement le même montant à la Chine dans leur monnaie locale, et ensuite on voit combien ils exportent, combien ils importent, et on fait la différence entre les deux à la fin de l'année, et on se débrouille pour savoir combien qui va payer quoi en solde, tu vois. Donc c'est des systèmes qui sont fondés non pas sur le chiffre d'affaires mais sur le solde, c'est-à-dire qu'on a besoin beaucoup beaucoup moins de pognon. C'est-à-dire que là il doit y avoir 100, je sais pas combien, 1000 milliards de dollars dans le système SWIFT, j'en sais rien, à tout moment ça aussi on en a plus besoin. On n'a plus besoin de ce qu'on appelait l'effondrement, quoi, tu vois, il y a l'effondrement. Donc, ça veut dire qu'on va rentrer dans un monde extraordinairement décentralisé, où, dans le fond, personne, et qui sera un monde beaucoup moins fragile, parce que, on a vu dans la crise de 2008-2009, quand les Singapouriens ont plus avoir de dollars, parce que les banques françaises pouvaient plus emprunter des dollars à New York pour les prêter aux Singapouriens pour acheter leur bouffe en Australie. C'est comme ça que ça s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que le commerce international s'est écroulé parce que les gens réussissaient plus à avoir de dollars pour des raisons internes aux États-Unis.
Et alors, tu parles de quelque chose d'autre qui est très intéressant, et on l'avait vu à un moment quand on vous parlait du cycle d'Aftalion.
Oui.
Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais qui était le fait d'avoir une croissance des accélérateurs et des croissances sectorielles et des croissances gaussiennes. C'est-à-dire que quand vous faites, Charles vous l'a expliqué plein de fois, quand vous faites un échange entre deux villes, entre Athènes et Sparte, vous allez avoir simplement des échanges entre ces deux villes. Mais rentre une troisième ville, tout à coup, il faut faire Athènes, Sparte, plus la troisième ville, Sparte, Athènes, Latana, voilà. Donc, vous avez ensuite une myriade de relations.
Si deux villes veulent se parler, elles ont besoin de faire une ligne de communication, mettons, Sparte et Athènes. Allez, Thèbes, une troisième ville, et puis vous mettez une ville en Sicile, il faut faire...
Carthage.
Carthage.
Elle n'est pas en Sicile, mais c'était pour dire
voilà,
en Tunisie.
Donc,
bon.
Deux personnes se parlent, une ligne. Trois personnes se parlent, trois lignes. Quatre personnes ne parlent, six lignes. Et si N personnes veulent communiquer avec N personnes, le nombre de lignes qu'il faut créer, c'est N facteur de N moins 1 divisé par 2. C'est-à-dire que si l'Asie se met à se mailler, pour l'instant, si j'ose dire, chacune de ces trois puissances était une espèce de grosse île.
Mmh.
Elle travaillait à l'intérieur d'elle-même, mais elle n'avait pas tellement...
C'est-à-dire que la Russie, elle était là-haut, elle s'occupait de ses stands tranquillement. La Chine, c'était la terre du milieu.
La terre du milieu, elle est, c'est une île. Parce qu'on ne peut pas l'envahir, c'est très difficile.
Elle faisait son truc, et puis ma foi, l'Inde...
L'Inde, bah, c'est un monde en elle-même, l'Inde. Donc vous aviez trois énormes îles, et qui se parlaient assez peu. Et maintenant, elles vont se mettre à se parler les unes aux autres. Elles vont... Et donc, le nombre de lignes de communication qui va être fait va être immense. Par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas de vol direct entre Pékin et Delhi.
Est-ce qu'il y a d'incroyable aussi, et que les gens ont du mal à voir, c'est que combien leur complémentarité est importante. Oui. Parce que la Russie, c'est quoi? C'est des terres rares, c'est du pétrole, c'est des énergies pas chères. La Chine, c'est quoi? C'est les inventions aujourd'hui.
Une
industrie pas possible. C'est
tout
ce que tu veux.
Si tu veux faire des routes, des hôpitaux, des aéroports...
Ils ont tout.
Ils savent faire.
Ils te montent tout. Ils te font des Rungis x 40, où tu veux, comme tu veux, des abattoirs, des machins, tout ce que tu veux. Et l'Inde, c'est la formidable réserve de bébés.
Et alors, ce qui est intéressant avec l'Inde, c'est qu'il y a encore 40% de la population qui ne sait pas lire et écrire. Mmh. Et donc, là aussi, il va y avoir des progrès une fois que le niveau de vie va monter petit à petit. Donc, ça va monter. Donc, vous avez ces trois pays qui vont se structurer.
Parce que c'est pareil, pardon, mais dans la consommation, tu l'as montré aussi, c'est des seuils. C'est-à-dire qu'il arrive à un moment où, quand les ménages gagnent X, tout à coup, tout le monde va se mettre à acheter une voiture.
À 10 000 dollars, tout le monde achète une voiture. Voilà. À 25 Ensuite, 000 dollars, tout le monde va à l'étranger.
Et puis
24 000, personne n'y va.
Et il y a des seuils comme ça.
Donc, vous allez avoir toute une série de seuils qui vont être franchis. Alors, ça paraît un peu désorganisé ce qu'on dit, mais c'est-à-dire que vous allez avoir ce que j'appelle une croissance ricardienne par meilleure utilisation du travail, du capital et de la terre. Et ça, c'est une croissance qui se passe parce que tout le monde se met à spécialiser dans ce qu'il fait de mieux. Et donc, c'est vraiment une croissance qui se fait un peu comme celle qu'on a eue en Europe dans les années 50, quand on a arrêté toutes ces imbécilités de protectionnisme, etc. Ça, c'est... Donc, ça a permis une très forte croissance les 30 glorieuses là en Europe. Donc, si j'ose dire, cette région du monde va rentrer dans ces 30 glorieuses. Et elle va rentrer... Non pas en étant hostile aux États-Unis, je pense pas, mais en disant simplement, c'est chez nous.
Oui.
Vous venez pas nous emmerder. Et ils peuvent pas les emmerder parce que aujourd'hui, par exemple, du point de vue militaire, les États-Unis ont 12 ou 13 porte-avions, qui sont la manifestation de la puissance américaine, parce qu'ils contrôlaient les mers. Mais aujourd'hui, si vous passez par la terre, les porte-avions, vous n'en avez rien à cirer. Ils viennent vous mettre un porte-avions, devant l'Inde, là. Bon, il y a un porte-avions américain qui est là-bas. Et comme ils ont des missiles qui vont à 10 fois la vitesse du son, si le porte-avions commence à être hostile, ils peuvent le couler en 5 minutes. Donc, on a à la fois un renversement géopolitique complète de la terre vers la mer, ou de la mer vers la terre, et un bouleversement parce que je suis plus du tout certain qu'on fasse les meilleures armes aujourd'hui. L'Occident, on a mis des pâtés à tout le monde pendant 3 ou 4 siècles parce que on avait des meilleurs canons, quoi. On avait raison d'ailleurs d'aller leur casser la gueule. On a fait ça avec beaucoup de talent, mais maintenant on n'est pas sûr qu'on a les meilleurs canons. C'est ce qu'on a vu en Ukraine.
Autre chose, parce que tu parles de guerre, mais tu parlais tout à l'heure du fait que plus personne allait avoir besoin du dollar américain, puisque désormais les énergies étant plus fluides, on n'avait plus besoin d'avoir ces réserves de valeur.
Ces réserves de change qui servent à rien.
Mais du coup, est-ce que les États-Unis ne courent pas un grand risque? Parce que du jour au lendemain, toutes ces banques qui ont des lignes de crédit en dollars, si elles se mettent à les vendre sur les marchés, ça va faire monter les taux. Ils peuvent se retrouver avec une attaque sur leurs dettes.
C'est exactement ce qui peut se passer. Alors, justement, j'en parle là-dedans, c'est une histoire un peu compliquée, là. Mais, bon, vous êtes la banque centrale de Chine, vous êtes la banque centrale du Japon. Et donc, vous parlez à vos copains banquiers centraux, à la Banque des règlements internationaux à Bâle. C'est là où tout le
monde... Gros lieu de fête. C'est un peu Ibiza, quoi.
C'est un peu... Et donc, ils se parlent.
Voilà.
Et probablement, le vrai problème auquel les États-Unis vont faire face, c'est j'ai 5 000 milliards de dollars qui sont à l'extérieur, dont plus personne n'a besoin. Mm-hmm. il faut que j'essaye d'éviter que ça se pète la gueule, et qu'en se pétant la gueule, ça fasse monter les taux à un niveau où je suis mort, mon économie est tuée, etc.
D'autant qu'ils ont un gros problème aujourd'hui sur leurs taux.
Ils essaient de les faire baisser,
etc. Ils essaient de les faire baisser avec la dette.
Voilà. Donc, vous dites ça à vos copains banquiers centraux au moment du déjeuner d'Abal, et qui vous disent, oui, vous avez un problème, mais on va vous aider. Parce que faut pas oublier qu'aussi bien le Japon que la Chine, ils ont d'énormes réserves de change en dollars. Donc, ils n'ont pas envie...
Oui, que ça se déprécie d'un coup parce que...
Non, mais c'est pas ça. C'est que si le dollar part en vrille, ça va créer des problèmes monstrueux.
Et
puis ils aiment pas ça. Les Chinois, ils aiment pas que ça bouge. Hein. Donc, ils vont essayer de tout faire pour arrêter. Les Japonais, ils feront ce qu'on leur dira. Ils ont l'habitude. Et donc, il doit y avoir une espèce d'agrément pour que ces dollars soient rapatriés aux États-Unis. Ils étaient à l'extérieur, ils reviennent aux États-Unis. Il y a plusieurs façons de le faire, que je montre dans le livre. C'est pas très compliqué, mais la plus simple, il n'y en a pas d'autre d'ailleurs, c'est que les États-Unis vendent des actifs qui sont possédés par des Américains, des terres ou j'en sais rien.
À des Chinois.
À des Chinois. Ou, si vraiment ça va mal, vendent leur or.
Ah oui, mais dans ce cas-là, il faudrait le réévaluer.
Il faudrait le réévaluer au moins 4 ou 5 fois. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que vous avez un problème aujourd'hui dans le monde. C'est bon, on avait un système monétaire qui était fondé sur le dollar. Donc, tout le monde avait des réserves de change en dollars. Et maintenant, d'un seul coup, les gens découvrent effarement que leurs réserves de change...
C'est juste du papier.
C'est juste du papier vert. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Et c'est très embêtant, ça, parce que quand la livre sterling a cessé d'être une monnaie de réserve, c'est-à-dire dans les années... 40, allez. Ben, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des gens qui avaient vendu du pétrole à l'Angleterre. Hein. C'était Koweït, par exemple. Et du coup, ils avaient plein de sterling dans leur réserve.
Qui n'était plus au bilan.
Qui valait pas grand-chose. Donc, le grand problème de la livre pendant 10-15 ans, de 40 à ce que moment vraiment la livre sterling s'est écroulée, c'était ce qu'on appelait les balances sterling. Ben là, il y a des balances dollars qui sont 5000 milliards de dollars, c'est beaucoup de pognon quand même.
Alors, une façon de tenir tout ça, c'est d'avoir une excellente valorisation des marchés financiers. C'est
voilà,
ce
alors
d'avoir...
justement, si on réussit à continuer cette histoire d'intelligence artificielle dominée par les États-Unis, si les marchés y croient de plus en plus, à ce moment-là, vous vendez une partie de votre capital là-dessus et ça vous épongeait une partie des dollars.
Et donc. Autre chose aussi, c'est bouffer les comptes courants des parties adverses. Ouais. C'est ce qu'a fait Trump avec ses tarifs.
Avec ses tarifs. Bah, il a dit, puisque la façon de faire rentrer des dollars c'est chez moi, c'est de coller des impôts sur l'argent que vous gagnez chez moi. Voilà. Et boum, il vous a mis des tarifs et comme ça fait rentrer du fric. Mais je ne sais pas si ce sera suffisant. Mais en tout état de cause, aujourd'hui, je peux dire avec une quasi-certitude que le dollar se réveillera pas pour l'Asie, ça c'est le deuxième. Deux, qu'il est à un niveau aujourd'hui qui est insupportable s'ils veulent revenir à l'équilibre des comptes courants. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une dévaluation assez sévère du dollar quand même. Et donc...
honnêtement, je crois pas que ça gênerait plus que ça Trump, dans la mesure où il se rend bien compte du niveau de sa dette et que d'évaluer, ça lui permettrait d'avoir...
Mais il faut aussi que l'offre de dollars se tarisse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui...
Qu'ils arrêtent de faire du QE.
Qu'ils arrêtent de faire du QE, qu'ils arrêtent d'imprimer, qu'ils arrêtent d'avoir des déficits budgétaires, des déficits externes. Donc il y a un moment ou un autre où il va falloir que les États-Unis retournent aux équilibres fondamentaux. Si c'est devenu un pays comme les autres... Ils ne peuvent plus avoir des déficits.
Non, mais voilà, si le privilège impérial n'est plus, ben voilà. Et ma foi, il est en passe de ne plus être, il y a un moment où something's got to give.
Il va bien falloir que les marchés s'ajustent à cette nouvelle réalité. Mais ça, c'est un problème que j'ai les États-Unis avec Trump en ce moment.
Il est peut-être dans le déni, tu sais.
Il est peut-être dans le déni. Alors, ce qui m'en aide beaucoup, c'est quand tu vois les portes de les États-Unis, bon, ils avaient l'Empire. Et je dis, bon, l'Empire, il ne marche plus. Bon, c'est ce qu'on vient de voir. Donc, il faut extraire la nation. Donc, ce qu'il faut, c'est passer à une politique de forteresse américaine. Tu vois, où tu es forteresse américaine qui dans le fond, avec l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord. Là, elle contrôle ça. Bien. Mais tu peux pas avoir les deux à la fois. Tu peux pas, comme Trump, dire aujourd'hui je suis forteresse américaine et demain j'ai le retour à l'empire.
Oui,
ou t'es dans le, ou tu as compris que l'empire était fini. Ce qui m'a beaucoup intéressé.
On en a déjà parlé, ça. Ouais, plein de fois.
Et la grande nouveauté, c'est que le Pentagone a sorti son document à long terme de, je l'ai vu ça hier dans les journaux, de prospective sur le monde. Et disent, les États-Unis ne peuvent plus contrôler le Pacifique et l'Atlantique à la fois. C'est fini. Donc, ce qu'on doit faire, c'est contrôler la doctrine de Monroe, être sur l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud et tout. Donc, le Pentagone est en train de dire, forteresse américaine.
Mais c'était ce qu'avait dit J.D. Vance et c'était ce qui avait été entendu dans le discours de Munich. Et ensuite, Trump est allé faire absolument l'inverse.
Voilà. Et il s'est fâché avec Musk à ce moment-là.
Et voilà. Mais oui, mais aussi pourquoi? Parce qu'il avait été dit qu'il allait faire des coupes très fortes dans les dépenses. Or, force est de constater que rien du tout.
Rien du tout. Il a augmenté les dépenses de l'État de 7%.
Donc, honnêtement, moi, je suis de tout cœur avec M. Musk, qui y est allé de bonne foi, qui a mis tout son poids dans la balance, qui a aidé à faire élire à hauteur M. Trump. Et l'autre, ça a quand même été cochon qui s'en dédie.
Mais tout à fait. Et ça s'est passé aux alentours. De mars-avril.
Exactement. Mars-avril, c'était après... Tu te souviens, on était allé à cette conférence de l'ARC.
Oui.
Et c'était juste après ça.
Juste après. Donc, les États-Unis vont faire un choix. Ils ne peuvent pas être à la fois l'Empire et la Nation. Et donc, ça veut dire aussi que nous n'avons plus de protection militaire. Donc, ce que je suis en train d'essayer de vous dire... C'est que l'OTAN est foutu.
Ouais. Ça, est-ce que c'est un mal?
Ça sert plus à rien, quoi. Ouais. Et si l'OTAN est foutu, je crois pas que la Commission européenne se porte bien. C'est-à-dire que toute cette espèce de construction complètement artificielle avait été faite sous la pression des États-Unis et avec le monopole des dollars sur l'énergie. Donc on était obligé d'obéir. Des gens comme Orban ou le président polonais aujourd'hui ou des gens comme ça ont l'air de penser qu'ils n'ont pas vraiment besoin des États-Unis. Et c'est ce que me disait un diplomate d'un ancien pays de l'Est, c'est qu'il me disait, bon, si je comprends bien, il y a 135 millions de Russes qui vont envahir 500 millions d'Européens avant d'aller attaquer les 360 millions d'Américains. Donc, c'est pas très crédible, votre truc, quoi. C'est pas très crédible. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, vous avez une espèce de lutte extraordinaire de relations publiques, en quelque sorte, pour essayer de défendre l'Europe, l'Empire américain, qui, à l'évidence, sont en train de s'effondrer. Mmh. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a des tas de gens qui disent « Mais non, ça ne s'effondre pas, mais non, vous allez voir, on va remonter. » Mais non, l'Europe, si le prix de l'énergie reste à 6 en Allemagne, elle ne va pas se redresser, quoi.
Donc, comment veux-tu que l'Allemagne soit compétitive?
Ben voilà, il peut y avoir des entreprises compétitives, par exemple BASF que j'ai nommé. BASF, ils ont depuis toujours, leur motto, c'est on produit là où on vend.
Oui.
Donc ils ont toujours eu des usines partout. Donc vous pouvez vous dire, bon, ben, ils vont fermer leurs usines en Allemagne, ils vont les ouvrir en Chine, c'est ce qu'ils font en ce moment d'ailleurs. Mais c'est-à-dire qu'on va avoir des individualités, BASF, Air Liquide, je ne sais pas quoi, Schneider, qui vont s'en sortir de façon extraordinaire parce qu'ils vont bénéficier à mort. Mais tous ceux qui dépendent des États dans notre, ou de l'Europe dans notre Venise, là, bah, ça va être piteux, quoi. Ils vont avoir un niveau de vie qui va baisser de façon effrayante. Et c'est donc, je regarde ça, et ce que j'essaye de faire dans ce livre, c'est de dire, bon, la deuxième tendance lourde, c'est quand même cette unification de l'Asie. La troisième tendance lourde, c'est que ça ne se fera pas avec le dollar. Et ça ne se fera pas avec une autre monnaie.
Justement, alors, dans la deuxième partie, on va rentrer dedans parce que l'heure tourne. Tu parles, dans la deuxième partie du livre, donc de l'émergence de cette nouvelle zone de croissance, donc du cercle de Valéry Pierry. Et tu reprends, quelque part, l'épopée un peu fantastique qui s'est passée depuis 74.
Depuis 93,
94. Oui, 93.
93. C'est-à-dire, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que vous avez la Chine qui émerge avec Deng Xiaoping, hein, qui était un type tout à fait remarquable. Elle devient très compétitive. Et puis, les autres pays ont leur monnaie fixée par rapport au dollar. Et qu'est-ce que fait la Chine à ce moment-là, en 93, en décembre 93, c'est qu'elle dévalue sa monnaie de 50% par rapport au dollar. Ce qui est une dévaluation monstrueuse. Et donc elle dévalue contre les États-Unis, ça va sans dire, mais elle dévalue aussi contre le yuan, contre le dollar, contre tous les autres dollars, etc. Dollar de Singapour, dollar de Taïwan. Bah, ce qui veut dire que bah, tous ces pays, en l'espace d'une nuit, ils cessent d'être compétitifs. Et quatre ans après, ils sautent tous. Donc la grande crise asiatique de 98-99 dont on vous en a parlé, à l'origine, il y a la Chine. Hmm. Et alors la Chine se dit, ben, en regardant le merdier qu'elle avait fait, elle dit que ce n'était pas une bonne idée.
M'a trompé.
Ils ont dû envoyer quelques économistes dans les mines de sel qui avaient recommandé ça. Et on en a mis des plus compétents. Et depuis, ils ont passé complètement dans un truc de « il faut qu'on bâtisse une zone monétaire entre nous ».
Voilà. Donc ils ont, au fil du temps, bâti une zone monétaire informelle. C'est-à-dire, à l'époque, on avait un SME, nous, en France. Et eux, ils ont fait une sorte de zone informelle. C'est-à-dire que quand on regarde les graphiques, et vous les avez dans le livre, on voit tout à fait que...
La volatilité baisse de plus en plus entre voilà. monnaies, comme ça. Il y avait une volatilité très forte des monnaies, puis elle baisse, et maintenant il n'y en a quasiment plus, 20 ans après. Donc, vous avez une zone monétaire qui est en train d'apparaître, et dans cette zone monétaire, on se rend bien compte que le coût du capital, qui est très important aussi, c'est-à-dire le coût de l'investissement à long terme, l'Asie était complètement branchée sur le 10 ans américain, le coût du capital, et puis depuis 2-3 ans, eh ben, les taux asiatiques se sont mis à suivre les taux chinois. C'est-à-dire qu'on a changé de suzerain. Le suzerain financier, si j'ose dire. C'était les États-Unis, ça ne l'est plus. Et ça aussi, c'est une nouvelle qui devrait être à la première page de tous les journaux. Mais personne n'en parle. Donc, le fait que le marché obligataire, je sais pas, de Singapour ratatine le marché obligataire allemand, ça s'était jamais passé, mais là, ils viennent de le faire. Donc, on voit bien que nos pays, en quelque sorte, ne sont plus capables de créer de la valeur. Et donc, comment voulez-vous qu'un pays qui est incapable de créer de la valeur, mettons la France, crée des réserves de valeur pour ses épargnants ?
Ouais.
C'est pas possible.
Non,
puisqu'en principe, donc, ça veut dire que, ce que j'ai dit depuis, vous ne devez, vous ne pouvez pas avoir des obligations en Europe. Il faut être complètement crétin. Celui qui a encore des assurances-vie avec des obligations en France, mais sortez tant que ça vaut quelque chose, tant que vous pouvez le faire. Donc on voit bien tout ça, ce qui se passe, c'est que je dis toujours que l'or voyage. L'or, si vous voulez, il avait un pendant lent, mais l'Empire romain, bon, qui a fait son plus haut avec Trajan à peu près. Bon, les Romains ont piqué tout l'argent qu'il y avait en Égypte, tout l'or, tout ça, c'était bon. Et tout ça a été concentré à Rome. Bon. Puis ensuite, c'est parti, une fois qu'il y a eu les invasions, c'est parti à Constantinople. Qui s'appelait Byzance, je crois, allez voir. Et puis de Constantinople, c'est allé à Venise, puis de Venise, c'est parti à Amsterdam, puis à Londres, puis aux États-Unis. Mais maintenant, on voit très bien que l'or est en train de bouger physiquement, les stocks d'or sont en train d'augmenter dans des proportions très fortes en Asie. Et s'il y a une règle que vous ne devez jamais oublier, il ne faut jamais acheter une monnaie ou une obligation dans un pays dont l'or s'en va. Il faut toujours acheter ses obligations et sa monnaie dans les pays où l'or arrive. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'ils sont compétitifs. C'est tout, quoi. Donc l'or mesure avec une sage lenteur la compétitivité des pays. Et l'or est en train de nous dire aujourd'hui, l'Europe n'est pas compétitive et les États-Unis pas tellement plus, quoi. L'endroit le plus compétitif au monde. Et donc, compétition, ça veut dire liberté. L'endroit le plus libre au monde, ça va être l'Asie, la zone de Valérie Pierris. Donc, ou vous mettez vos actifs là-bas directement, ce qui est facile aujourd'hui, ou bien, alternativement, vous pouvez dire, je vais acheter des affaires françaises, très bien gérées, qui aient déjà leurs actifs là-bas. Ou allemandes, d'ailleurs, BASF. Donc, on est en train de passer d'un monde centralisé sur le dollar et centré sur la culture européenne, à un monde complètement décentralisé, centré sur rien du tout, et complètement ouvert. Donc, quelque part, c'est une très bonne nouvelle. Donc, j'ai essayé de dire, je me dis, t'es très pessimiste, je leur dis, je suis pas très pessimiste. Je suis le gars à Venise, qui constate qu'on a découvert l'Amérique du Nord, et que ça ouvre des perspectives gigantesques. Donc, à la limite, ce que je fais, c'est que je prends mon petit baluchon et je vais m'installer de Venise à Amsterdam.
Non, une autre bonne nouvelle aussi, c'est que, et tu en parles dans le livre, c'est que dans l'absolu, il est toujours mieux dans un monde d'avoir plusieurs interlocuteurs. C'est toujours gênant d'avoir un seul maître. Là, il y en a trois. Il va y avoir la Chine, l'Inde, donc, et la Russie.
Oui,
et ce qui veut dire qu'il y a une fragmentation des pouvoirs, ce qui, quand même, est moins tyrannique.
Voilà, mais s'imaginer qu'il n'y ait que la Russie et la Chine, allez, un jour ou l'autre, ils se mettraient sur la gueule. Parce qu'il y en a un des deux qui doit être le plus gros.
C'est moi le chef.
C'est moi le chef. Mais si vous avez l'Inde, à ce moment, en plus, ben à ce moment-là, les Russes veulent dire, bon, la Chine est plutôt plus costaud que moi en ce moment, mais si je m'allie à l'Inde, je peux la battre. Donc, ça force les gens à faire de la diplomatie et pas la guerre. Et donc, moi, j'aime beaucoup les endroits où il y a trois pouvoirs. Les endroits où il y a deux pouvoirs, c'est vachement instable. Mais les endroits où il y en a trois, c'est très bien. Et donc, là, c'est un pouvoir qui est bien réparti, qui, ensuite, ils n'ont pas vraiment les mêmes intérêts. Donc, ce que j'essaie de dire dans ce livre, c'est que dans ce monde-là, il y aura de la place pour tout le monde, puisque tout le monde sera beaucoup plus libre, mais encore faut-il que nos structures politiques nous permettent d'y avoir accès.
Oui.
Et aujourd'hui, par exemple, nos taux de change en Europe sont complètement ridicules. Donc, pourquoi l'euro est monté cette année pour des raisons de marché complètement imbéciles?
Bah, c'est pas tant qu'il est monté, c'est que le dollar.
Le dollar a baissé, mais comme le yen et le yuan sont restés accrochés au dollar, mais nous, du coup, on a réévalué contre les deux types les plus productifs au monde, donc on n'a pas fini de déguster. Donc il y a aujourd'hui des différences de prix dans les monnaies, dans les taux d'intérêt, etc., qui sont complètement injustifiées. C'est-à-dire qu'on aurait dû avoir depuis 2-3 ans, c'était une hausse phénoménale de la monnaie chinoise suivie par le yen, et on a eu une hausse de l'euro. Tu te dis, parce qu'ils ont tous ramené leur fric parce qu'ils avaient peur.
Parce qu'ils avaient peur.
Et donc tu te dis, vraiment, il y a des écarts aujourd'hui qui ne sont justifiés en rien. Et
Ça va peut-être se corriger à un moment.
Mais ça
ou
se corrigera à un moment ou à un autre. Mais...
Peut-être par l'or. Hein.
Oui, mais l'or aussi, ce que j'ai fait beaucoup, c'est, je le montre aussi un peu dans le livre, c'est que vous prenez le marché allemand. Des actions. Vous réinvestissez des dividendes tout le temps, donc c'est ce qu'on appelle la rentabilité totale du marché des actions. Vous le divisez par la rentabilité totale du marché obligataire allemand. Le 10 ans aussi, pareil. Ça vous fait un ratio qui, depuis 1960, était littéralement complètement horizontal. C'est-à-dire que de temps en temps, les actions faisaient mieux, de temps en temps, les obligations faisaient mieux. Vous savez, j'ai toujours dit que les obligations allemandes vous donnaient du 4 ou 5% réel, donc c'était aussi bien que les actions. Donc c'était horizontal. Et puis, depuis à peu près 3 ans, ce ratio a complètement cassé à la hausse. Les actions aujourd'hui sont à 3 écarts types, 4 écarts types du ratio d'autrefois. Et ça se passe sur le marché français vis-à-vis des obligations françaises, sur le marché américain vis-à-vis des obligations américaines, sur le marché anglais vis-à-vis des obligations anglaises. Et donc je dis aux gens, écoutez, ce qui est en train de se passer, c'est que les investisseurs disent « je ne veux plus de votre marché obligataire ». Donc ils sont en train d'essayer de vendre leurs obligations et de racheter des actions. Donc ils doivent vendre leurs obligations à la BCE, là, et puis acheter avec ça des actions. Donc on voit que la fuite contre la monnaie a déjà commencé.
Oui.
Et qu'elle n'est pas prête de s'arrêter. Donc l'étape suivante, ça va être notre niveau de vie va baisser très fortement par la baisse de la monnaie. On ne pourra plus acheter des téléphones Apple, ils sont trop chers. Donc on voit les trucs, mais ce qu'il y a d'amusant, c'est que c'est amusant. C'est que c'est jamais dans le bon ordre. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas dans l'ordre auquel tu t'attends. Par exemple, je m'attendais pas à ce que les actions fassent tellement, tellement mieux. Et puis je l'ai regardé, j'ai dit, c'est bizarre. En effet, c'est en train de se passer. Donc l'étape suivante, ça devrait être que les... Par contre, si tu mesures le marché allemand des actions contre l'or, il a pas bougé. Et si tu le mesures contre le marché obligataire chinois...
Il a fait moins bien.
Il a plutôt fait moins bien. Donc... C'est pas le marché des actions qui a monté, c'est le marché obligataire qui se met à s'écrouler. Et derrière, il peut pas ne pas y avoir un écroulement des monnaies, quoi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les marchés sont ainsi faits que souvent tu dis c'est comme ça que ça va se passer. Dans l'ensemble, ça se passe comme ça, mais l'ordre d'arrivée est pas toujours celui auquel tu t'attendais, quoi. Ben, c'est un peu. Alors, ce livre, pour revenir à ce livre, qui est quand même un... C'est pour moi quelque chose de très curieux d'essayer de faire du Nostradamus, voyez, c'est
oui. Oui. Donc, parce que encore une fois, les astrologues ont été inventés pour permettre aux économistes
d'avoir l'air sérieux.
D'avoir l'air sérieux.
Donc, je regarde ça et je me dis, c'est des tendances lourdes qui sont là depuis un certain moment. On les voit bien évoluer. Et elles ont été accentuées par les politiques publiques. C'est-à-dire que on a l'impression que l'Europe et la France, les gouvernements, n'avaient qu'une idée, c'est de rendre nos sociétés de moins en moins compétitives. Parce que c'était...
Ils s'y sont très bien pris.
Ils s'y sont très bien arrivés.
entre les 35 heures, tout ce qui était mesures sociales, l'euro.
L'euro, dont personne n'avait besoin, personne ne demandait rien. Les moulins à vent, tout ça.
Non, parce qu'on nous dit toujours, oh, c'est tellement pratique, on n'a pas à changer l'argent. Tu te dis, de toute façon, aujourd'hui, vous payez tous en carte bleue la moindre baguette, les nouvelles générations, donc tu n'as besoin de changer rien du tout.
Non, mais ça, ça a été toute une série de bêtises qui ont été faites et qui ont toutes été faites grosso modo de 2002-2003 à 2020. Il y a eu 17 ans où la bêtise a régné en maître. Et donc, on va avoir un effet de rappel qui a commencé avec certains marchés obligataires. Mais ce que j'essaye de faire, c'est un peu ce que faisait, encore une fois, toute ma proportion gardée, ce que faisait Tocqueville ou ce que faisait Bastiat, c'est de regarder les mouvements, et tu fais que prolonger les tendances qui te semblent devoir, qui vont continuer à se prolonger, et puis de dire celles-là, elles vont s'arrêter. Par exemple, l'endettement en Europe, il va s'arrêter. Mm-hmm. Parce que plus personne va nous prêter. Bon. Donc, tu fais je vais faire un tri entre les tendances qui vont s'arrêter et les tendances qui vont pas s'arrêter, et tu regardes ce que ça te donne.
Oui.
Et ça marche assez bien. Par exemple, j'avais fait ça il y a très longtemps, à la fin des années 80, si vous voulez, j'étais arrivé à la conclusion dans un document que j'avais publié à l'époque, que l'Union soviétique allait finir, allait sauter. Quoi. Bon, les gens me disent que j'étais fou, 3 ans après, elle sautait. Donc, c'est un peu ça le but, c'est de dire, quelles sont les tendances lourdes qui vont s'arrêter? Ben, c'est la dette, comme solution. C'est l'asservissement au dollar. C'est le mouvement mondial. La globalisation, si vous voulez, ce truc, l'idée d'Attali qu'on allait avoir un gouvernement mondial, n'importe quoi. C'est le retour de la nation, c'est-à-dire que...
Sauf que pas les nôtres.
Hein?
Le retour de la nation, mais pas les nôtres de nation. Les leurs, là-bas.
Oui, le retour de la nation, mais la plus... Tu regardes les grands qui mènent ce mouvement, Modi, Poutine, Xi... ils parlent au nom de leur nation.
Mais bien sûr.
Ils ne parlent pas au nom de je ne sais quel
regroupement.
Et d'ailleurs, quand Mme van der Leyen va à Pékin...
Elle est reçue par personne parce qu'elle ne représente personne.
Voilà, les Chinois qui sont très attachés à ce genre de truc.
Littéralement. Et à la fonction.
Mais ils disent, mais vous n'êtes rien. Donc, pour un Chinois, Mme van der Leyen ne représente rien. Mais par contre...
Elle est chef de chorale.
Chef de chorale, c'est ça. Et donc... C'est le retour de la nation et le retour de l'intérêt national et donc de la souveraineté nationale. Donc toute cette espèce de mouvement qui a commencé en Europe de « on va faire une grosse tour de Babel et ça va marcher ». La tour de Babel qui a commencé en Europe avec de l'or est en train de s'écrouler. C'est la tour de Babel de l'Union soviétique. Donc ce à quoi je m'attends, c'est la deuxième chute du mur de la tyrannie. On avait une tyrannie dure qui était là-bas, maintenant une tyrannie molle, mais c'est pareil. Donc on va arriver à plus de liberté. Et moi, je suis très content. Mais par contre, ça veut dire que nous, on va prendre une punition pas possible parce qu'on a vécu sur des subventions.
Le problème, on peut le dire, c'est qu'on a vécu par ces subventions. Aujourd'hui, on voit, donc tu en as parlé avec Léonard, cette opposition entre les générations qui est faite parce que simplement les problèmes n'ont pas été traités. Et il est certain que toute la génération de mai 68 a vécu sur des actifs, des transferts qui ont été faits parce qu'ils ont anticipé donc une levée d'impôts et ils ont vécu littéralement sur des levées d'impôts de générations qui allaient venir
Et
de générations qui ne sont même pas là.
Non, non, ils ont emprunté de l'argent, c'est-à-dire qu'ils ont augmenté les impôts sur les générations futures. Et ils ont empêché l'augmentation de la production. Donc, la génération de 1068, c'est la génération la plus bête et la plus sinistre de l'histoire de France. Mais je crois que la génération de 1068... je sais pas si tu te souviens, toi t'étais pas là, mais en 68, le grand slogan, c'est « Il est interdit d'interdire ».
Bien sûr, oui.
Et les mêmes, aujourd'hui, disent « Ils interdisent tout, quoi. Tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, t'es mal vu. » Donc, cette génération est passée d'assez gay, un petit peu bordélique, à l'ordre moral. Elle a aucun intérêt. Mais c'est elle qui va prendre la gamelle.
Non, c'est moi, c'est ma génération X.
Non, toi, tu peux encore travailler, mais celui qui s'imagine qu'il
Mais moi, j'aurai pas de retraite.
Non, bien sûr que non, mais tu peux t'en faire une. Ouais. Et en plus, si tu veux, tu as pas de retraite, mais eux, ils croient qu'ils ont une retraite, mais elle sera pas payée.
Oui, mais eux, ils sont où en ce moment? Ils sont à Bali, hein?
Oui, ils sont à Bali, mais ils pourront plus y aller, ils vont retourner dans la Creuse, dans le Gers.
Oui, mais enfin, ils seront allés à Bali quand même pas mal, parce qu'à chaque fois que tu regardes des reportages à la télévision...
Il n'y a que des Gaulois.
Il n'y a que des Gaulois. Hein. Sur la dernière fois, je te dis, je regardais un truc sur des ananas qui étaient au Costa Rica, et qu'est-ce qu'il y a 30 Gaulois qui étaient en train de regarder les fermes de Costa Rica, qui faisaient des petits ananas très couillus, parce qu'ils ont un super jus, machin. Et voilà, les mecs, ils sont blindés. À chaque fois que tu vas quelque part, tu as des Français qui sont là, qui vivent leur meilleure vie. Genre c'est Françoise et Marie-Claude.
Ils vont vivre, mais je crois que, tu sais, notre niveau de vie aujourd'hui, c'est le niveau de vie qu'on gagne, plus le niveau qu'on a emprunté. Mais dès le moment où.
Plus tout le niveau qu'on paye à tout un tas de gens.
Plus le niveau, mais ça fait partie du niveau de vie, mais on le paye. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on ne va plus pouvoir emprunter. Donc logiquement, on ne va plus payer les gars qui ne vont plus rien foutre. Parce qu'on ne pourra pas les payer. Donc ça veut dire que peut-être l'immigration va se renverser, les gens vont se barrer, en se disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce pays de fou où je crève de faim ?» Et en plus, il fait froid. Et donc, à ce moment-là, on pourra peut-être se remettre au boulot.
C'est une statistique que tu avais sortie qui est assez intéressante. Tu avais dit qu'en France, quel que soit le gouvernement, quelles que soient donc les avancées politiques, le taux de chômage n'est jamais descendu en dessous de 7%.
C'est-à-dire en 78.
Depuis 78. Ça veut dire que structurellement, on a ces 7% statistiquement au-dessous desquels on ne peut pas descendre malgré tous les contrats aidés et ainsi de suite. Ça raconte quelque chose sur l'état de la société quand même.
Ben, ça veut dire qu'aussi la France est le seul pays où le poids de l'État dans l'économie n'a cessé de monter depuis 1981. C'était tout à fait extraordinaire. Dans tous les autres pays, il y a des moments où ça monte parce que ça ne va pas bien, puis ça rebaisse derrière, comme la Suède, puis ça remonte, puis ça rebaisse. En France, c'est la ligne droite, et tu peux pas, en regardant le poids de l'État dans l'économie, tu peux pas savoir si c'est un gouvernement de gauche ou de droite qui est au pouvoir, c'est exactement pareil. Donc ce que j'essaie de dire aux gens, c'est que la France est un pays qui a été gouverné contre son secteur productif depuis 40 ans. Le but, c'était de punir les chefs d'entreprise, et ça continue et quand tu...
Du reste, quand tu regardes la dette... française, elle est comme ça, hein. Elle monte de façon droite-gauche.
Les deux sont collés, parce que la différence entre une entreprise, elle investit de l'argent qu'elle a. Si elle n'a pas eu l'argent, elle va essayer d'en emprunter un peu, puis au bout de 5 minutes, on lui dira « Non, vous en prête plus ». Tandis que l'État, il continue à faire les mêmes choses, en empruntant. Donc, les profits, ça augmente le taux d'épargne du pays, l'État, ça le diminue. Donc, comme on a de moins en moins d'épargne, puisque l'État en dépend de plus en plus, ben, notre taux de croissance baisse, l'économie s'effondre, il n'y a plus d'emplois, par contre, il y a des fonctionnaires partout. Donc, ben, il va falloir que les Français apprennent une fois pour toutes que l'État, ça n'est pas la solution, c'est le problème. Je crois qu'on y va tout droit.
Et voilà, je pense que tu as
donc,
trouvé
c'est,
le
c'est un livre... C'est pas du tout un livre d'adieu, parce que j'ai 82 ans, hein, je vis encore une vingtaine d'années au moins.
Regarde Warren Buffett, il a quoi, 96 ?
Oui, 96. La seule chose, il faut pas que j'arrête de travailler, parce que ça, je meurs d'ennui immédiatement. Mais c'est un livre qui correspond un peu à une espèce de recherche prospective extrêmement modeste, mais qui devrait orienter vos placements dans les années qui viennent. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous gardez en mémoire ces lignes de force. Parce que c'est important. Vous savez, quand vous êtes dans les marchés financiers, vous avez deux choses. Vous êtes comme un bateau. Ou vous avez le vent arrière, et ça pardonne, vous allez très vite et ça pardonne plein d'erreurs. Ou vous avez le vent de face. Et là, c'est difficile de gagner de l'argent parce que...
Donc,
si vous vous mettez... Si votre but dans la vie, c'est de vous mettre simplement avec votre bateau dans les endroits où il y a du vent arrière, ben, vous allez faire beaucoup mieux parce que ça pardonne beaucoup d'erreurs. Tandis que si vous avez le vent de face, ben, il faut que vous soyez vachement bon. Et donc, ce que j'essaie de dire, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe a un vent de face force 8, quoi.
Ah oui, autre chose, je vous le dis, mais vous allez oublier, mais enfin comme ça, je le dis quand même. Dans le livre, à dessein, Charles utilise le terme de rimbimbi, qui est l'équivalent de yuan. Mais en réalité, en chinois, monnaie est utilisée pour dire yuan. Donc en fait, yuan, ça veut dire monnaie. Et en du fait, reste, le sigle, le sigle, c'est ça. Attendez,
voilà, c'est un Y c'est avec deux barres.
C'est ça, ça c'est le yuan. Mais ça et ça, ça en fait, c'est le signe pour dire la monnaie en chinois. Et du coup, quand vous dites yuan, ça veut dire ça ou ça, mais ce n'est pas le bon signe. En fait, c'est pour ça qu'on utilise renminbi, parce que sinon, ça prête à confusion et on ne peut pas savoir quand vous dites monnaie en chinois si vous dites yuan.
Si un chinois qui lit ce truc-là, j'en sais rien, ça arrivera peut-être. Eh bien, le yuan, le dollar, c'est un yuan.
C'est un yuan.
Alors voilà. Que le RMB, c'est le nom de la monnaie chinoise.
Dollar, le dollar, tu le mets comme ça. Voilà. Ça, ça veut dire dollar aussi bien, ou ça veut dire yen, ou ça veut dire, parce que c'est le signe de la monnaie.
Ça veut dire monnaie.
Voilà, monnaie. Et ça, RMB. C'est le signe international pour le yuan, mais donc il vaut mieux dire le RMB, parce que le RMB, ça veut vraiment dire l'argent.
Et pourquoi on dit ça? C'est parce que je me suis fait engueuler par mon fils.
Voilà, on s'est fait engueuler tout l'été, alors vous le dire.
De dire yuan à la place de RMB, donc c'est beaucoup plus long à écrire, mais enfin, je mets RMB maintenant.
Maintenant, voilà. Donc en tout cas, pour vous, ça veut dire... la monnaie chinoise.
Il n'est pas facile, ton frère.
Bimbi. Non, non, il a des... Et surtout, il est très méchant avec mon chien. Il n'arrête pas de dire que j'ai élevé deux filles très bien, mais que je ne sais pas élever les chiens. Mais c'est là où vous avez tous tort. J'ai même pas essayé.
Oui, c'est vrai.
J'ai pas essayé. C'est pas que j'ai pas réussi.
En tout cas,
si
tu n'as pas essayé, tu as parfaitement réussi.
J'ai parfaitement réussi. Il s'est élevé tout seul, ce chien.
Oui.
C'est une merveille.
J'ai aidé aussi.
Oui, tu as aidé. Tu as bien aidé, surtout pour les manières de table. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère qu'on aura su bien vous vendre ce petit livre. Non pas qu'on en ait besoin, parce que tous les profits vont, encore une fois, à l'Institut des Libertés, à faire tourner cette officine.
Tous les droits d'auteur vont à l'Institut des Libertés.
Voilà, Charles n'en tire, parce que ça me fait toujours rire parfois sur les réseaux sociaux, il y en a qui disent « oui, Charles Gave
». On le voit partout pour qu'il vende ses livres.
Pour qu'il vende ses livres. Alors, on le voit partout, point numéro un. Et point numéro deux, pour vendre ses livres, encore une fois, il ne touche à rien du tout. Donc, et puis, de nos jours, je vais vous dire, à part Catherine Pancol, ou je ne sais pas quels sont les auteurs qui peuvent véritablement vivre de leur art. Peut-être Michel Onfray, parce qu'il écrit beaucoup et qu'il est très prolixe, mais sinon, je ne crois pas qu'on en vive, sauf encore une fois les grands, grands titres, en littérature. Amélie Nothomb doit en vivre, mais c'est de la littérature, ce n'est pas des essais.
Ce n'est pas des essais. Avec les essais, le dernier qui
a... Et c'est traduit.
Le dernier qui a vraiment vendu, c'était Revel. Parce que lui, il vendait, était traduit partout dans le monde.
Et puis c'était une autre époque, les gens lisaient des essais. Aujourd'hui, un essai qui tire à 5 000, c'est une très bonne vente.
Oui, je tiens à signaler que mes deux derniers essais ont tiré à 40 000. Donc,
Non, mais
il y a certainement des gens qui sont contents de lire des choses que j'ai écrites.
Mais de nos jours, tu as des éditeurs qui tirent 500. Il y a des petits tirages sur des essais. Hein.
Quand tu
regardes les chiffres du Salon du Livre, tu te rends compte, hein, c'est des très petits tirages. Et voilà. Et si vous voulez vraiment voir des petits tirages, vous regardez les ventes des livres d'Hidalgo, et là, vous avez une illustration de ce qu'il y
en avait 12 de vendus, je crois.
Donc 5 à son comité d'entreprise, tu sais. Enfin bon, cela dit, de toi à moi, le livre de Yael Braun-Pivet, je ne sais pas combien il était traduit, enfin, s'il va être traduit dans des langues.
Elle a écrit un livre ?
Mais oui, bien sûr.
Mais elle n'avait pas fini son coloriage précédent. Quoi.
Comment faire une quiche lorraine et comment être une tourte aux 4 parfums, oui. Enfin, c'est comment coucher ses poules.
Voilà.
Écoutez, ça nous a beaucoup amusé de vous présenter le livre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, je les prendrai puisque j'ai tout lu.
Il devrait arriver vers fin octobre, début novembre. Allez.
Début novembre, à mon avis, hein, parce que Pierre, je crois que c'est même mi-novembre, il l'a mis sur le site. En tout cas, vous allez sur le site de l'éditeur, édition Pierre de Taillac, et il vous expliquera tout. Voilà. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.